Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1,
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de passer l'heure qui vient avec vous. On va se glisser dans les pas des reporters d'Europe 1 pour écouter le monde changer. Avec un premier stop aux États-Unis, histoire de découvrir de façon un peu plus intime celui qui sera peut-être le prochain président américain, Joe Biden, bientôt 78 ans et pour l'instant favori des sondages. Autre destination, la Chine, où l'on est prié désormais de ne plus rien laisser dans son assiette. Exigence du président lui-même qui anticipe un risque de pénurie alimentaire et qui a donc lancé une grande campagne anti-gaspi. On va aller écouter comment ça se traduit au restaurant. Et puis les auditeurs les plus anciens retrouveront avec bonheur une grande voix de la maison. Stéphane Paoli, qui vous a informé pendant 16 ans sur Europe 1, il vient nous parler d'un essai passionnant qu'il a écrit sur le monde qui vient. Côté culture aujourd'hui, ce n'est pas un roman, mais une série télé étrangère qu'on va vous faire découvrir. Stateless, c'est une série australienne. Enfin, Joseph Chovanec nous rejoindra en fin d'émission pour partager avec nous, comme chaque dimanche, son regard singulier sur le monde. Les carnets sont ouverts, direction Washington.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Il apparaît aujourd'hui comme le sauveur des démocrates, le sauveur de l'Amérique anti-Trump. Savez-vous qui est vraiment Joe Biden? On va prendre quelques minutes pour découvrir cet homme qui, pour l'instant, à moins de 2 mois du scrutin, fait la course en tête pour la Maison-Blanche. Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour Sophie.
C'est à Washington, là où vous vivez, qu'on vous appelle et vous êtes très bien placée pour nous dresser le portrait du candidat Biden puisque vous signez un livre sur lui, un essai qui sort mercredi prochain publié par les éditions du Rocher. Alors pour cette enquête, vous avez rencontré ses conseillers politiques, des proches de Biden, des opposants aussi. On va entendre certains d'entre eux grâce à vous. Et c'est vrai que Biden, il a une image pas très dynamique. Hein. Oncle Joe, comme on l'appelle, un type sans charisme et connu pour faire des gaffes et pourtant... Vous dites que vous ne pensiez pas vous amuser autant à écrire ce livre et que vous avez découvert un personnage assez fascinant.
Oui, Joe Biden, candidat aujourd'hui vieux et apparemment ennuyeux, a en fait une vie romanesque, faite d'une succession de tragédies et de succès. C'est un personnage complexe, avec un caractère bien trempé.
Son nom complet, c'est Joseph Robinette Biden Jr. Rigolo.
Oui, tout à fait. Il est issu d'une famille de la classe moyenne. Il est né en Pennsylvanie, c'est un état clé d'ailleurs pour l'élection. Sa mère était d'origine irlandaise et son père avait de lointaines origines françaises. La grand-mère paternelle de Biden descendait de huguenots français. Biden grandit dans une famille soudée, croyante, qui lui inculque les valeurs chrétiennes. Il a 2 frères cadets et 1 sœur. La fratrie est importante parce qu'elle va se retrouver au cœur de ses différentes campagnes. Il a une enfance très heureuse, mais il a un handicap qui va le poursuivre jusqu'à l'adolescence, le bégaiement. Il réussit à le surmonter en récitant des poèmes irlandais devant son miroir et depuis, c'est devenu en quelque sorte un coach pour les personnes souffrant de bégaiement. Il leur donne même parfois son numéro de téléphone.
Alors justement, vous avez rencontré l'un de ses plus vieux amis, un afro-américain qui l'a aussi aidé à combattre son bégaiement.
Oui, Biden a rencontré Richard Smith, surnommé Mouse, lorsqu'il a passé un été en tant que maître nageur dans un quartier noir de Wilmington, la ville où il a grandi dans le Delaware et où il habite toujours. C'est l'un de ses tout premiers amis afro-américains. On s'est donné rendez-vous devant la piscine qui porte désormais le nom de Biden.
Il m'a dit, Mouse, si tu veux progresser, tu dois te regarder dans le miroir et parler. Et quand tu entends des gens parler, regarde la façon dont ils prononcent les mots. C'était comme un petit professeur pour moi. J'ai suivi ses conseils et mon langage s'est amélioré.
À travers l'histoire de cet ami, on comprend aussi mieux l'engagement de Biden auprès de la communauté noire, Sonia.
Tout à fait. Lorsqu'il a 19 ans, Biden dit être frappé par les images de manifestations contre le racisme. On est en pleine ségrégation raciale. Il ne fréquente que des blancs et a envie d'en savoir plus sur la communauté noire. Enfin, ça, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie. Mouse m'a livré une version un peu différente.
Il avait besoin d'argent. Il n'arrivait pas à trouver de petits boulots d'été. Et ici, c'était le seul job disponible. Alors la municipalité lui a dit, tu n'as qu'à travailler pour cette piscine. C'est une piscine pour noirs. Et il a choisi de venir.
Mais est-ce que vous pensez qu'il était aussi curieux, désireux de se faire des amis afro-américains ?
Mais non, il était simplement curieux de se faire de l'argent.
Alors j'ai trouvé ça intéressant car tout au long de sa vie, Joe Biden a souvent exagéré, enjolivé son passé et c'en est un parfait exemple. Ce qui n'empêche pas que cette expérience a en partie changé sa vie. Il a assez vite gagné le respect des jeunes du quartier. Aujourd'hui, Mouse et Biden sont toujours très proches. Ils s'appellent régulièrement. Mouse décrit le candidat démocrate comme quelqu'un de simple.
C'est quelqu'un qui vous met à l'aise. Tu n'as pas l'impression que c'est ce grand politicien et qu'il faut se comporter d'une certaine façon. Il est normal, il est comme nous.
Alors ça, c'est un trait de caractère qui revient souvent pour décrire Joe Biden, un candidat normal, humain, proche des gens. Vous l'expliquez très bien, Sonia. Il prend son temps pour aller à la rencontre de ses électeurs. Vous dites que c'est un peu comme au confessionnel. Autre élément marquant de la vie de Joe Biden, il a été très tôt frappé par la tragédie.
Oui, Joe Biden vivait sur un petit nuage au moment où les drames est arrivé. Il venait d'être élu sénateur à 29 ans avec sa femme Neila, dont il était fou amoureux. Ils avaient 3 enfants. Ils étaient tellement occupés après son élection qu'à une semaine de Noël, ils n'avaient toujours pas de sapin. Neila a pris les enfants sous le bras pour aller en chercher un. Et c'est là qu'ils ont eu un accident de voiture. Neila et leur petite fille de 13 mois, Naomi, sont décédées. Les fils Beau et Hunter ont eux été blessés. Biden est traumatisé, il pense même au suicide. Il veut renoncer à son siège de sénateur, mais finalement, il n'abandonne pas. Il prête serment depuis la petite chapelle de l'hôpital où ses fils, à ses côtés, continuent de se faire soigner.
Ouais, une image très forte et qui est restée. Alors, il réussit à jongler entre sa vie de jeune sénateur et de papa seul, veuf, grâce en partie au soutien de sa sœur Valérie.
Oui, Valérie, qui est aussi l'une de ses plus proches conseillères politiques. Biden va rester 36 ans au Sénat, mais pendant toutes ces années, pour être le plus possible avec ses enfants, il fait chaque jour l'aller-retour en train entre Wilmington et Washington. La compagnie ferroviaire s'appelle Amtrak et c'est pour cela qu'il est surnommé Amtrak Joe. Alors, j'ai rencontré à Wilmington Sheila Marlowe, une afro-américaine qui a travaillé pendant 35 ans à la gare dans le centre-ville. Elle avait l'habitude d'y croiser Joe Biden et exulte lorsqu'on le mentionne.
I love him.
Ah, je l'adore. Quand il était sénateur, je le faisais parfois monter dans le train. C'est un gars génial, un bon père de famille. Et il a toujours soutenu les Afro-Américains.
Et Joe Biden a été nommé d'ailleurs en 2008 vice-président du premier président noir, Barack Obama.
Oui, et d'ailleurs, ils avaient au départ une relation compliquée. On les présente souvent comme des grands complices. C'est vrai aujourd'hui, mais la route a été longue. Jill Biden, la deuxième femme du candidat qu'il a rencontrée quelques années après le drame et qui fait aujourd'hui campagne à ses côtés, est aussi très copine avec Michelle Obama. Jill, qui est très populaire chez les démocrates, c'est une enseignante. Elle a d'ailleurs prévenu que si son mari est élu, eh bien, elle continuerait d'enseigner comme elle l'a fait lorsqu'elle était deuxième dame.
Alors, on va mettre un peu en avance rapide, Sonia.
Oui, parce que Biden, il a une longue carrière.
Voilà. Donc en 2016, il renonce à se présenter à l'élection présidentielle.
Oui, son fils Beau, qu'il voyait comme son héritier politique, décède d'un cancer du cerveau. Le clan Biden est accablé, déchiré. Biden hésite beaucoup, mais il craint de ne pas être encore prêt psychologiquement. Et puis Obama lui fait clairement comprendre qu'il veut qu'Hillary Clinton soit la nominée.
Alors en 2019, qu'est-ce qui l'a poussé cette fois à se présenter ? S'il est élu, il sera le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis au moment de son investiture. Il aura 78 ans.
Eh bien, il y a un événement qui vraiment le secoue, c'est le drame de Charlottesville. Souvenez-vous, en août 2017, des manifestations sont organisées par l'extrême droite et en face par des militants antiracistes. Une jeune manifestante est tuée par un néo-nazi, le pays est sous le choc. Et Donald Trump déclare dans un discours qu'il y a des personnes bien des deux côtés. Ouais. C'est vraiment ça qui a été le déclic, comme l'explique l'un de ses plus proches conseillers que j'ai joint au téléphone, Tony Blinken.
La décision a vraiment été prise après les événements à Charlottesville, où il y a eu une confrontation entre les manifestants et ceux qui les opposaient, et le président Trump qui a fait une équivalence morale entre les deux. C'est ça qui a vraiment poussé Biden à se mettre en liste pour la nomination démocrate, parce qu'avant il hésitait, mais c'était un peu le moment du déclic.
D'accord.
Et pour lui, c'était vraiment notre propre identité qui était en jeu.
Biden qui répète souvent depuis dans ses discours qu'il veut restaurer l'âme de la nation.
Vous racontez aussi, Sonia, dès le début du livre, ce rebondissement assez extraordinaire. Plus personne ne croyait en lui au début de cette année et puis il a ressuscité politiquement soudain dans l'année. On comprend aussi dans votre livre que le candidat Biden en 2020 est bien différent du sénateur Biden qui avait toujours été très centriste.
Oui, aujourd'hui, Biden est présenté comme le candidat avec le programme le plus progressiste de l'histoire du Parti démocrate. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Trump le présente même comme la marionnette de ce qu'il appelle la gauche radicale.
Alors, Joe Biden a de l'avance aujourd'hui dans les sondages, mais Hillary Clinton en avait aussi il y a 4 ans, on s'en souvient, et puis elle a perdu. Pourquoi ça serait différent cette fois?
Alors en 2016, beaucoup de démocrates, notamment des jeunes, n'ont pas été votés parce qu'ils éprouvaient de l'antipathie envers Clinton. Ils ne pensaient pas que Trump pouvait gagner. Biden ne provoque pas autant d'animosité chez les électeurs. Cela dit, vous avez raison, tout peut arriver évidemment d'ici l'élection. Et puis beaucoup de questions se posent avec le vote par correspondance qui devrait être important avec la pandémie. Les résultats risquent donc de tomber au bout de plusieurs jours. Ça pourrait créer un certain chaos. En tout cas, certains craignent ce scénario catastrophe.
Décidément, les élections clés sont souvent compliquées dans cette grande démocratie qu'est l'Amérique. Un grand merci. Oui. Merci Sonia d'avoir partagé avec nous en avant-première le fruit de votre enquête sur le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, c'est le titre de votre livre qui sera dans toutes les bonnes librairies dans 3 jours, publié par les éditions du Rocher et dont on peut lire d'ailleurs les bonnes feuilles aujourd'hui dans le JDD. Merci. Merci Sonia, à bientôt.
Merci beaucoup Sophie, au revoir.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Le gaspillage alimentaire est choquant et inquiétant. C'est comme ça que le président chinois a justifié l'opération Assiette Vide lancée il y a un mois. En creux, c'est la question de l'autosuffisance alimentaire du pays qui se pose, alors que par ailleurs 35 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en Chine. Désormais, mieux vaut finir son plat sous peine d'amende. Et le petit doggy bag pour rapporter les restes chez soi a fait son apparition. Notre correspondant Sébastien Lebelzik est allé voir ça au resto à Pékin. Reportage.
Quand on se balade en ce moment dans les rues de Pékin, on tombe sur ces nouvelles affiches qui ont fait leur apparition. Entre les slogans communistes et la faucille et le marteau, l'image d'une assiette et une paire de baguettes sur fond blanc, avec ce slogan « Pour être civilisé, il faut tout manger ». La campagne a été lancée par le président chinois lui-même. Xi Jinping a appelé ses concitoyens à faire preuve de civisme culinaire et à terminer tous les plats. Les restaurants ont répondu présents, ils ont obtempéré car personne ici ne discute les ordres du président. Dans cet établissement de Pékin, c'est même une règle qui s'affiche dès l'entrée sur un grand poster. Et s'il le faut, le patron des lieux, Liu Jiawei, rappelle la marche à suivre.
Moi, je vais chercher directement mes légumes à la ferme et je vois bien comment les paysans travaillent dur. Il faut respecter cela et ne pas gaspiller la nourriture. À chaque fois, nous rappelons aux clients au moment de commander qu'ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas assez, ils peuvent recommander. Mais s'il y a des restes, alors il faut les emporter et les manger plus tard.
Son cuisinier, M. Wang, a adapté ses menus à la nouvelle réglementation. Et il n'hésite pas à faire venir les clients dans sa cuisine.
Déjà, moi, je fais des portions raisonnables, adaptées à chacun. Un plat, c'est pour une ou deux personnes, pas plus. Mais les clients peuvent en choisir plusieurs. Je leur dis de venir me voir pour vérifier les quantités avec moi dans la cuisine. Ce qui compte, c'est le goût et la qualité des produits. Et quand je vais en salle et que je vois les assiettes vides, alors je me sens heureux. C'est comme le sentiment d'avoir bien fait mon travail.
Si la Chine a décidé de mettre un peu d'ordre dans les assiettes, c'est que les Chinois gaspillent beaucoup. 35 millions de tonnes de nourriture par an. À l'échelle du pays, la nourriture ainsi jetée pourrait nourrir plus de 50 millions de personnes. Et comme souvent en Chine, tout est question de tradition. Il faut aussi lutter contre les banquets fastueux et l'habitude bien ancrée de ne jamais finir son assiette pour ne pas faire perdre la face à ses hôtes. Une assiette vide voudrait dire que l'on n'a pas assez mangé. Les clients du restaurant sont persuadés que les mentalités vont rapidement évoluer. C'est en tout cas ce que pense le patron Liu Jiawei.
Auparavant, quand les gens invitaient quelqu'un au restaurant, ils commandaient beaucoup. C'est une façon de montrer du respect. Mais maintenant, c'est en train de changer. Et certains pensent même que si l'on commande trop, c'est à la nourriture que l'on manque de respect.
Et ses clients s'exécutent sans rechigner. Cette jeune femme remplit minutieusement sa boîte en plastique avec les restes du repas qu'elle finira ce soir.
La Chine est beaucoup plus développée maintenant. Les gens sont plus riches, ils n'ont pas besoin de commander beaucoup pour se sentir important. Nous avons changé notre rapport à la nourriture. Et je pense, enfin j'espère, que les gens vont devenir moins matérialistes et plus spirituels.
Mais comme certains se font encore tirer les oreilles pour ne pas gaspiller, des restaurants poussent même le zèle jusqu'à imposer des amendes à ceux qui laissent plus de 100 grammes de nourriture dans leurs assiettes. Au moment de régler l'addition, la note est bizarrement très salée. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et avec Sébastien Lebelzik en ligne avec nous depuis Pékin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
Expliquez-nous un peu les dessous de cette campagne. Pourquoi maintenant ?
Alors il y a une raison économique hein, d'abord. L'affaire est particulièrement sérieuse parce que déjà en temps normal, la Chine manque de terres arables, de terres cultivables. La Chine, vous savez, c'est 20% de la population mondiale, mais seulement 7% des terres arables. Mmh. Et en plus, depuis le début de l'été, le centre et le sud de la Chine subissent des inondations records, déplaçant des millions de personnes et faisant craindre surtout des pénuries alimentaires. Or, il n'est pas question pour la Chine d'importer, par exemple, davantage de viande, de riz ou de soja des États-Unis, jusqu'ici principal fournisseur de Pékin. Donc, il ne faut pas gaspiller. C'est autant un acte de civisme qu'un élan nationaliste pour permettre à la Chine d'atteindre une certaine autosuffisance alimentaire.
Et ça n'est pas un petit sujet hein, en Chine. Les repas, c'est important.
Oui, c'est vrai. C'est un peu comme en France, d'ailleurs. On aime bien manger ici, sauf que les Chinois ont tendance à manger beaucoup trop. La tradition d'ailleurs, c'est qu'il y ait toujours un plat de plus que le nombre d'invités. 11 plats par exemple pour une table de 10. Mmh. Le président chinois, lui, veut ramener cela à 9 plats maximum pour 10 personnes. Vous voyez, les choses sont très précises. Vous savez, en Chine, pour le coup, c'est très différent de la France. On commande pour toute la table de très nombreux plats que l'on partage ensuite tous ensemble.
Et dans cette affaire, il y a aussi l'histoire qui compte. Parce qu'il y a 40 ans, la Chine souffrait encore de la famine.
Et oui, quel retournement hein, de passer en deux générations seulement de la famine au trop-plein et même à l'obésité hein, qui est en train de devenir un fléau ici chez les jeunes, notamment à Pékin, où l'on compte de plus en plus de fast-food. Il y a d'ailleurs de plus en plus de cas de diabète hein, en Chine, sans compter les nombreux scandales alimentaires, la nourriture avariée, les contrefaçons. Tout cela plaide pour que la Chine apprenne à manger moins, mais aussi à manger mieux. Le bio, par exemple, est de plus en plus populaire en Chine. La qualité de la nourriture est devenue la préoccupation principale des Chinois.
Wow. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour ces explications à propos de l'opération Assiette Vide lancée mi-août par le président chinois en personne. À bientôt.
Merci Sophie. Chéché.
Chéché. C'est la chronique culture dans un instant avec une petite nouvelle, enfin nouvelle dans les carnets parce qu'évidemment vous la connaissez. C'est Eva Rock qui nous rejoint pour nous vanter les qualités d'une série télé. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Vous connaissez bien depuis des années la chronique Un livre dans le monde avec Nicolas Carreau et voilà désormais en alternance une série dans le monde avec Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Ravie de vous accueillir dans les carnets. Alors tout comme les romans, les séries télé sont aussi une manière de raconter la comédie humaine du monde et de ses sociétés. Et pour cette première, vous aviez envie de nous parler d'une fiction australienne en 6 épisodes. Donc c'est une mini-série qui évoque la politique migratoire en Australie.
Exactement Sophie, c'est une série mise en ligne sur Netflix en plein cœur de l'été et qui n'a sans doute pas eu les échos médiatiques qu'elle mérite.
Alors, on répare.
Voilà, le pitch, l'histoire, c'est assez simple. Stateless, qui signifie apatride en anglais, a pour décor le centre de rétention de Barton. C'est un centre en plein désert australien, écrasé par le soleil, balayé par la poussière. Et dans ce lieu hautement sécurisé, vous imaginez bien, vous allez découvrir le destin de 4 personnages. Sophie, qui est une jeune femme qui souffre de troubles mentaux, elle cherche à fuir son pays et sa famille et elle a choisi de se faire passer pour une Allemande ayant perdu ses papiers. Okay. Et elle espère ainsi pouvoir quitter le continent et rejoindre l'Europe. Il y a Amir, lui c'est un réfugié afghan, sa femme et sa fille sont décédées lors de la traversée et avec son autre fille, eh bien, ils attendent patiemment d'obtenir des papiers. Et puis il y a Claire, elle représente vraiment la bureaucratie, elle est là pour éviter toute mauvaise publicité dans les médias à propos de ce camp de rétention. Et enfin, il y a Cam, c'est un père de famille australien. Il a accepté un job comme gardien pour pouvoir s'en sortir et le voilà dans un bus qui le mène au camp.
Chaque bâtiment est divisé en deux. Les hommes célibataires d'un côté, les familles de l'autre. Je vais être totalement clair. La détention d'un migrant est une mesure administrative. Ce n'est pas une peine d'emprisonnement. Vous avez un devoir de diligence envers un ESI, un étranger en situation irrégulière. Sa différence doit être respectée, qu'elle soit culturelle ou linguistique, que ce soit une femme ou un homme et quel que soit son âge. Ne répondez pas aux tamouls qui sont sur le toit. Ne les regardez pas et ignorez-les du mieux que vous pourrez.
Qu'est-ce qu'ils font là-bas?
Vous parlez le tamoul? Non. Dommage.
Stateless revient en fait sur l'histoire de ces 4 personnages dont la vie dépend de la politique instaurée par le gouvernement australien. Et Amir, notre réfugié afghan, va découvrir à son arrivée à Barton le fonctionnement du camp en question.
Amir, des endroits comme celui-ci, il y en a partout en Australie. Des prisons comme celle-ci?
Exactement comme celle-ci.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on est des terroristes.
Tu vois bien?
On mérite d'être enfermés.
Tu vois cet homme assis là? Figure-toi qu'il est ici depuis 7 ans. Il demande qu'à partir, mais aucun pays veut lui. On peut pas vivre ça. Faut qu'on sorte très vite d'ici.
Amir, c'est vraiment le personnage cabossé de cette série, au même titre que les trois autres, et qui attend de cette terre australienne un refuge pour lui et sa fille, parce que le retour au pays est évidemment impossible.
Est-ce qu'il y a un personnage qui sort du lot, selon
vous ? Alors moi j'aime beaucoup le personnage du gardien, Cam, qui est un personnage qui je trouve extrêmement intéressant, parce que l'homme est fondamentalement bon, il est bienveillant, il est généreux, cet emploi il en a besoin, c'est alimentaire pour lui, il t'entend tant bien que mal d'être aimable avec les réfugiés, d'apporter un peu d'humanité dans, dans ce lieu déshumanisé. Et puis, très rapidement, il va assister au premier coup porté par sa chef, en plus une femme. Donc ça, ça résonne encore un peu, de façon un peu plus forte. Donc ces coups portés à un réfugié un peu rebelle, une scène évidemment violente qui est faite, qui est réalisée loin des caméras de surveillance.
Ouais, ce que je vous comprends bien, c'était vraiment un récit à charge pour l'État australien.
Complètement. Ouais. Et c'est en ce sens qu'elle est remarquable, cette série. D'abord parce qu'elle dénonce vraiment la politique migratoire australienne avec ses camps dans lesquels les femmes et les hommes sont maltraités. Elle est remarquable aussi parce qu'elle évite en fait tout manichéisme. Il n'y a aucune situation qui est caricaturale. Le sujet difficile est quand même traité avec justesse, avec intelligence et humanité.
Et la situation des peintres colle vraiment à la réalité.
Bah bien plus que ça, Sophie, parce qu'en fait, la série qui est coproduite par Cate Blanchett, qui a un petit rôle également dans la série, revient sur des faits réels. Ça s'est passé il y a 15 ans. Les Australiens avaient découvert qu'une jeune femme souffrant de troubles mentaux, Cornelia Rowe, croupissait dans un centre de rétention dans le sud du pays. S'en suivit un immense scandale et une enquête du gouvernement qui dévoila à ce moment-là un système d'immigration absolument désastreux. Donc Stateless agit un peu comme une sorte de piqûre de rappel face à ces événements. Une série très esthétique par ailleurs, il faut le préciser, et qui est à découvrir en 6 épisodes, c'est sur Netflix.
Et vous nous les conseillez plutôt en VO, même si on a mis des extraits bien d'accord. En version
française. Bien d'accord.
Voilà, Stateless qui raconte une partie de la société en l'occurrence australienne, comme d'autres séries dont vous parlez chaque semaine dans un nouveau podcast. Eva, dites-nous quelques mots là-dessus.
Oui, exactement, parce qu'avec l'équipe d'Europe 1 Studio, on a lancé cette semaine un nouveau podcast qui est baptisé Sériland. C'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et qui les font. L'objectif, c'est vraiment d'aborder les séries, comme vous le disiez Sophie, comme un objet culturel au même titre que le cinéma, la culture, le théâtre, la littérature, voilà, avec deux mots en guise de leitmotiv qui sont enthousiasme et curiosité bien évidemment. Et deux épisodes vous attendent, voilà, comme d'habitude, deux épisodes par semaine sur une même thématique. On a abordé l'image du flic dans les séries françaises cette semaine. La semaine prochaine, mardi et jeudi, ce sera les violences faites aux femmes et vous pourrez notamment entendre un grand entretien avec Jean-Xavier de Lestrade, talentueux réalisateur de documentaires et d'une série à découvrir sur France 2 qui s'appelle Laetitia.
Sériland, produit par Europe 1 Studio, Amis des Carnets. Abonnez-vous pour n'en louper aucun, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et puis Eva, on vous retrouve tous les matins dans Culture Média avec Philippe Vandel.
Merci Sophie.
Merci beaucoup. À suivre, une visite qui nous fait extrêmement plaisir, celle de Stéphane Paoli, grande voix de l'info sur Europe 1 jusque dans les années 90. Il est l'auteur d'un essai publié cette semaine sur Le Monde qui vient.
Les Carnets du Monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Dans les carnets, vous le savez bien, ça fait 15 ans qu'on écoute le monde changer. Et aujourd'hui, j'accueille un homme qui lui aussi observe minutieusement ces changements. Bonjour Stéphane Paoli.
Bonjour Sophie Larmoyer.
Comme je suis contente que vous soyez là dans ce studio d'Europe 1.
Peut-être pas autant que moi de vous me retrouver dans ce studio d'Europe 1.
Vous qui m'avez accueilli pour mon tout premier papier à l'antenne dans votre journal de 13h à l'époque.
Ouais.
Voilà. Parce que oui, vous avez été longtemps l'un des piliers de l'info ici à Europe 1.
Ah bah écoutez, c'est simple. En radio, je suis né à Europe 1.
Voilà. Avant de partir un peu sur France Inter, et puis vers une réflexion permanente et profonde, alimentée par des échanges avec de nombreux penseurs, des savants, des artistes, un peu les meilleurs dans leur domaine, des architectes de ce monde en marche, en quelque sorte. Et aujourd'hui, 15 de ces entretiens de haut niveau sont rassemblés, tissés dans un livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Ce qui vient ». Et alors je dis tissé, évidemment, parce que vous mettez dans la peau d'une araignée qui tisse sa toile en devant composer avec les courants d'air aléatoires, toile qui met en lumière les points de convergence entre toutes ces disciplines, toutes ces pensées, tous ces savoirs, parce que ces chercheurs, ils sont issus de disciplines extrêmement variées.
Ils ont une capacité étonnante et je dirais magnifique à n'être pas propriétaires de leurs connaissances. Et à se dire au fond que la seule façon de comprendre ou d'approcher, sinon comprendre toujours, d'approcher la complexité du monde dans lequel nous sommes, c'est une approche systémique pluridisciplinaire.
Pourquoi est-ce important que toutes ces disciplines se croisent ?
Parce que ça nous renvoie à notre rôle, à nous les journalistes. Dès lors qu'un événement se produit, quel que soit l'événement, à l'instant où il se produit, il est immédiatement en résonance avec mille autres choses qui peuvent non seulement modifier l'événement, mais en changer même le sens. C'est dire que le traitement de l'information en temps réel est pour moi, est une sorte de fiction intenable. Et c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans le temps long et de comprendre au fond comment des gens venus de disciplines différentes, astrophysiciens, biologistes, géologues, oncologues et j'en passe.
Éthologues, généticiens,
ouais. peuvent, dans leur discipline, arriver à trouver des points de convergence. J'ai trouvé des points de convergence extraordinaires, par exemple, entre un géologue et un biologiste. Pourquoi ? Parce que le géologue me dit que quand la Terre s'est formée, il n'y avait qu'un seul continent, qui était la Pangée. Sur ce continent poussaient des végétaux, vivaient des micro-organismes. Et puis la Pangée s'est fracturée. C'est devenu l'Afrique, l'Amérique du Nord, celle du Sud, l'Asie. Et tous ces végétaux et ces micro-organismes qui avaient vécu ensemble sur un seul milieu se trouvent séparés et évoluent différemment. Et cette différence d'évolution est transmissible jusqu'à l'ADN. Et c'est ainsi que les biologistes se sont posé la question de l'épigénétique. Comment le milieu peut influencer la santé et l'organisme des individus jusqu'à modifier leur ADN.
Alors là, vous parlez d'un monde passé, mais votre livre s'appelle « Ce qui vient » et il n'est pas question de prédire l'avenir. Non. En revanche, de regarder ce qui existe déjà aujourd'hui pour peut-être deviner un peu vers où on va.
Voilà, pour voir les tendances. Mmh. Alors, moi, je forme le vœu que ces hommes et ces femmes me disent et m'expliquent puissent enfin exister. Ça demande une chose importante, ça demande à ce que nous soyons, comment dire, plus humbles. Et surtout, accepter l'idée que nous ne sommes le centre de rien. Ça, c'est vraiment l'idée dominante. L'homme n'est pas le centre du monde, loin s'en faut.
Là, c'est un point de convergence dans beaucoup de disciplines. Toutes les disciplines.
L'univers n'a pas de centre, l'univers n'a pas de bord connu, il est en expansion permanente, en modification permanente, et nous sommes un des éléments de ce système-là. Et c'est d'ailleurs la beauté de cette affaire, c'est que c'est magnifique, au fond, de penser les choses comme ça.
Vous faites un état des lieux au début de votre livre qui montre la complexité et puis les difficultés auxquelles le monde est confronté aujourd'hui, entre un accident climatique intégral qui est largement débuté, des colères globales nourries par des injustices et qui sont nées un petit peu partout dans le monde. On pense au printemps arabe, on pense aux gilets jaunes, on pense à Hong Kong, enfin de tous bords. Et puis vous évoquez ce gros courant d'air qui fait bouger la toile et qui change la donne, qui est ce virus, la Covid-19, qui est arrivé au printemps dernier, enfin l'hiver dernier.
Ben, il est intéressant, il est inquiétant bien entendu. Il est aussi intéressant parce qu'il est notre miroir. Le virus, c'est nous.
Il grossit tout ce qui se passe là.
D'une part, et d'autre part, il nous renvoie l'image de ce que nous avons construit. Nous avons construit l'interdépendance. L'interdépendance est globale maintenant. Et donc le virus profite de cette interdépendance. Mais qui a construit l'interdépendance ? Nous. Donc le virus, c'est nous. Il y a quelque chose, il y a un effet miroir intéressant qui se produit à travers cette affaire. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à certains d'entre eux, sociologues y compris, j'ai dit « mais qu'est-ce que tu penses du virus ?» L'un d'eux m'a répondu « le virus, c'est la solution ».
Jean Viard, le sociologue.
Mais j'avoue...
Pourquoi c'est la solution ?
Ben parce que
Soyons un peu positifs, regardons demain, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile. Pourquoi c'est la solution ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Parce qu'il faut impérativement...
Alors ça, on l'entend beaucoup, mais concrètement, là, qu'est-ce qui...
Mais concrètement, il faut probablement qu'on se débarrasse d'un certain nombre de choses. Par exemple, d'une certaine conception de l'économie. L'investissement avec retour immédiat sur investissement, honnêtement, ça nous conduit dans le mur. La course à la rentabilité immédiate, et la financiarisation qui a pris la place de l'économie, ça a des conséquences énormes. Et ça creuse le fossé terrible. La fameuse formule, tenez, d'un homme qui vient de disparaître, qui était un ethnologue formidable, David Graeber, qui avait inventé le concept du 99% d'un côté et avec un seul pourcent qui domine tout le reste. C'est pas possible, c'est pas viable. L'économie est une nécessité impérative dès lors qu'elle est redistributive et qu'elle permet à des classes de se développer, de donner aux enfants plus de chances que leurs parents n'en avaient eux-mêmes. Tout ça, c'est fini aujourd'hui.
Tout ça, c'est fini, et c'est pour ça qu'il faut que ça change, dites-vous, Stéphane Paoli. On marque une courte pause avant de poursuivre cette conversation. Ensemble, on évoque ce qui vient, peut-être aidé par un vilain virus. À tout de suite.
On croit tout connaître du destin de Jeanne d'Arc, mais qui était vraiment cette héroïne malgré elle? Déambuler dans Dorémy, son village natal, découvrir la maison de son enfance, les moments clés de son histoire, dans un tout nouveau parcours de visite. De l'intime à l'universel, reconstituer les multiples facettes de Jeanne la Pucelle. Plus d'infos sur maisonjeannedarc.vauge.fr.
Ah, les surprises. Il y a celles du chef censé avoir du goût, et d'autres parfois de très mauvais goût. Il y a des cadeaux aux surprises, et des surprises qui sont pas vraiment des cadeaux. Et puis il y a les promos surprises, valables sur des produits qui, ah, surprise, ne sont plus disponibles. Bref, les surprises, parfois c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, pas de mauvaises surprises. Consultez maintenant sur Nissan.fr nos offres exceptionnelles sur des Nissan Qashqai en stock. Et contactez directement en ligne votre concessionnaire pour réserver un essai. Du 4 au 13 septembre.
Nissan.
Détail Nissan.fr.
On retrouve Être là pour vous avec Cerise de Groupama.
Mais où trouvez-vous tous ces fromages, Vincent?
Oh, question fromage, on trouve de tout ici. En revanche, question santé, c'est moins facile.
Vous savez, avec Groupama, vous avez accès à 10 000 professionnels de santé partout en France et à des avantages privilégiés. Et en ce moment, jusqu'à 200 euros offerts pour de nouvelles souscriptions à des contrats santé et prévoyance.
Vraiment?
Vous aider à trouver le professionnel de santé qu'il vous faut, c'est ça, Être là pour vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à condition jusqu'au 31/10/2020. Voir modalité en agence participante et sur groupama.fr.
Menez. Alors, je lis sur votre CV hobby, randonnée, rafting, parapente, plongée, kitesurf, planche à voile, ski. Et ça continue, mais vous faites comment?
Je conduis le nouveau Mini Countryman.
Nouveau Mini Countryman, le SUV compact et familial, est disponible en édition suréquipée à partir de 370 euros par mois, sans aucun apport. Exemple pour un Mini Countryman Cooper édition Northwood. LLD 36 mois, valable jusqu'au 30 septembre 2020. Conditions sur Mini.fr.
Méné. Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
À quoi le monde de demain va-t-il ressembler? C'est une question qui nous occupe, tout spécialement en cette période de pandémie propice aux remises en question. 15 penseurs contribuent à dessiner ce qui vient, chacun dans son domaine. Et c'est vous, Stéphane Paoli, qui avez rassemblé ces échanges dans un livre paru cette semaine. Juste avant la pause, vous nous disiez qu'il fallait rompre avec une certaine conception de l'économie pour qu'elle ne soit plus au service d'un tout petit nombre, mais plus redistributive. Mais alors vous citez ces économistes qui disent « le capitalisme est mort ». Vous citez Joseph Stiglitz qui parle de fondamentalisme de marché, de cette violence pour la société et pour le monde. Et en même temps, on se dit tout a l'air de continuer comme avant.
Mais malheureusement, tout continue comme avant parce que la puissance des systèmes et notamment des lobbies est telle aujourd'hui que l'économie est devenue la maîtresse de la planète. Mmh. C'est vraiment ce qui conditionne. Le fait politique passe désormais derrière le fait économique.
Alors ces penseurs qui ont souvent un coup d'avance, ils vous disent ça vient. Ça vient, ça va changer. Mais ça vient quand?
Ils ne savent pas. Pas plus que... Je crois que personne ne sait, en réalité. Pour que ça vienne, il faudra beaucoup de... comment dire? Beaucoup de caractère, beaucoup d'exigence, beaucoup d'ambition. Ce n'est pas gagné. Moi, ma seule espérance, mais celle-là, elle est vraiment réelle, elle est dans la génération qui vient. Elle ne veut pas la même chose que ma génération à moi. Elle n'aspire pas aux mêmes choses. L'argent n'est pas son ambition première. Les rapports entre les éléments de cette génération, qui tenaient un petit fait auquel on ne porte pas suffisamment d'importance. Ils jouent avec des jeux vidéo. Ils sont en réseau. Donc, ils pratiquent une forme de pluridisciplinarité et d'ouverture naturelle. Ils sont nés avec ça. Donc, ils pensent le monde comme ça. Moi, mon petit-fils, quand il est en réseau, il joue avec un copain qui est chinois et un autre qui est espagnol.
Vous mettez le doigt sur un point que vous développez dans le livre avec plusieurs de vos interlocuteurs, qui est le rôle moteur de l'imagination.
Bien sûr. Ah ben, l'imagination, c'est... Ben, pourquoi nous avançons? Parce que nous imaginons. L'imagination, c'est quelque chose d'extraordinairement constructif. Nous sommes ce que nous avons construit et le produit de notre imagination.
Le futur est le fruit d'une construction fictionnelle, écrivez-vous.
Mais tout à fait.
Ouais. Ouais.
C'est Daniel Kaplan qui dit ça, qui est un type extrêmement brillant, et qui a créé une université virtuelle qui s'appelle Plurality University. C'est-à-dire que des gens du monde entier se connectent sur ce site et proposent des imaginations qui sont en réseau, qui viennent du monde entier. Donc il y a un métissage des imaginations qui produit parfois des choses tout à fait extraordinaires.
Et du coup, un métissage des récits, c'est-à-dire que ce n'est plus un seul récit qui était un peu le récit à l'occidental, etc. Et ça, c'est l'outil du web qui le permet. Mais le web permet le meilleur et le pire.
Mais comme toujours, quand vous sortez dans la rue, il y a le meilleur et le pire. Mmh. Et depuis que l'humanité existe, on a toujours vécu avec le meilleur et le pire. Mais c'est cette espèce de phénomène dialectique qui nous fait avancer. Mais le métissage dont je vous parlais, Kaplan me raconte une histoire que je trouve magnifique. Quand les Occidentaux, et notamment les Américains, font des films de science-fiction où il est question de l'arrivée des extraterrestres sur Terre, qu'est-ce qu'on voit à l'image? La plupart du temps, on voit les blindés américains qui prennent position, des hélicoptères tout phares allumés, des milliers de caméras de télé qui filment tout ça d'une espèce de tension incroyable. Et puis il y a un Africain qui, lui, écrit un scénario différent qui se passe à Lagos, l'une des plus grandes villes d'Afrique, au Nigeria. Et il dit, voilà, les extraterrestres débarquent, au fond, mais quelles conséquences? Et il dit, ça ajoute juste un petit peu plus au bordel ambiant. C'est formidable, tout à coup, d'avoir un récit qui s'engage dans une direction totalement différente. Et il ajoute, et ça c'est magnifique, mais on arrivera à parler avec eux, parce que déjà nous, on arrive à discuter avec les esprits de la forêt. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à discuter avec les extraterrestres.
Je voudrais revenir sur le défi climatique qu'on évoquait il y a quelques minutes et sur cette fracture générationnelle aussi dont vous parlez. Pour guérir, il faut nommer et dire. C'est un grand cancérologue qui vous a dit ça. Et pourtant, on a beaucoup nommé, on a beaucoup dit. Des spécialistes depuis 40 ans nous expliquent à quel point la dégradation de nos milieux, on en est responsable et comme il faudrait changer. Et puis ça ne change pas. Et qu'est-ce qui va faire que les jeunes, la jeune génération aujourd'hui, derrière Greta Thunberg et tous ceux qui se sont mis en marche dans ces marches climat, qu'est-ce qu'ils ont de plus pour que
Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus ou qu'est-ce qui nous menace? Et j'espère me tromper en disant ça. Sommes-nous menacés d'une fracture générationnelle? Sommes-nous menacés par une génération qui est là, maintenant, devant nous? Ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et vont-ils nous considérer comme les fossoyeurs de leur propre génération pour avoir fait ce que nous avons fait? Petit détail, moi qui me révulse honnêtement, quand je vois dans les rues ici à Paris, quand je sors de mes Alpilles, que je vois partout sur les trottoirs des masques qu'on a jetés, je trouve que c'est non seulement d'une incroyable vulgarité comportementale, mais d'une irresponsabilité totale. On ne peut pas faire ça, et on ne peut pas faire ça devant cette génération-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser de ce que nous sommes quand nous faisons ça? Donc, eux veulent autre chose. Eux manifestent au plus haut niveau. Greta Thunberg, elle s'adresse maintenant à des gens qui ont des responsabilités politiques au plus haut niveau.
Ça n'empêche pas beaucoup de la moquer.
Ben justement, pourquoi la moque-t-on? Parce que ceux qui sont les tenants d'une forme de pouvoir, les premiers ont considéré qu'elle était probablement une autiste Asperger et qu'il ne fallait pas trop s'arrêter là-dessus, quoi. Moi, je trouve ça choquant, je trouve ça dérangeant quand une parole s'élève et qu'elle est articulée.
Parfaitement basée sur des faits scientifiques.
Basée sur des réalités mesurables et objectives. On doit l'entendre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tous, mais il faut au minimum les écouter. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui ce qui manque à nos sociétés.
Vous écrivez, Stéphane Paoli, que ce qui vient, fruit de la combinaison de la pandémie, d'un effondrement de la biodiversité et du changement climatique, c'est une mise à jour obligée du rapport que l'espèce humaine entretient avec elle-même et avec son milieu.
Obligé.
Vous êtes optimiste alors?
Moi, je suis optimiste. Et puis, je vous dis, je le répète, j'ai une immense confiance dans la génération qui vient et dans les journalistes qui viennent. Dans les quelques-uns que j'ai pu croiser dans la rédaction d'Europe 1 qui ont l'air tout jeunes.
Vous avez raison.
Et donc, vous me dites vous-même que c'est votre espérance aussi. Oui. Je crois qu'il faut vraiment avoir confiance en eux.
Voilà, avec peut-être le virus comme déclencheur de ce changement de paradigme. Voilà, vous écrivez à la fin, une toile est tissée, mais rien n'est fini. L'une des plus belles remises en cause est engagée. Nous ne sommes pas les maîtres. Sourions, nous retrouvons la liberté de composer avec ce qui nous entoure. La fraternité du courant d'air nous libère de la domination. Voilà, on va rester sur cette parole positive. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Stéphane Paoli. Bon vent, pas trop fort, hein, pour ne pas tomber de la toile d'araignée.
Et bon vent à Europe.
Merci beaucoup. Merci. Ce qui vient, c'est votre livre et publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci de votre visite sur Europe 1.
Les Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Que diriez-vous d'un petit détour en Autistan avant de se quitter? C'est là que Joseph Chovanec nous convie chaque dimanche, fort de ses trois casquettes, philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur-découvreur. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors quand on s'attaque à une nouvelle langue vivante, vous en connaissez un paquet des langues vivantes, l'une des premières phrases qu'on apprend c'est « Comment vous appelez-vous » Ça semble très simple comme ça, mais en fait non, pas toujours.
Oui, Sophie, et pendant longtemps, je pensais être le seul au monde à lutter contre mes difficultés autistiques, à m'y retrouver dans les sables mouvants des noms, prénoms, pseudonymes des gens, jusqu'à ce que je commence à voyager. Et j'ai vu que, mettons, dans les formulaires de demande de visa, on demandait de remplir les cases nom, prénom, éventuellement nom d'artiste. On croit que c'est facile, universel, mais rien n'est plus faux.
Alors, quel type de difficultés on rencontre, par exemple ?
Déjà, il y a la tradition américaine qui consiste à mettre des chiffres après le nom, hein, ou alors la tradition russe où on a le prénom, prénom du père et nom de famille. Ouais. Mais pour être vraiment dépaysé, il faut aller plus loin. Hein. Au début de mes séjours en Iran, j'avais été frappé par les noms des religieux, par exemple les ayatollahs, hein, j'en ai fréquenté un certain nombre. Les ayatollahs n'ont pas un nom et un prénom, hein. Ils sont désignés par un nom de lieu, généralement leur première ville d'exercice, avec un « i » à la fin. Quoi, okay. Hein. Ces noms fleuraient pour moi bon l'Orient, lointain, mystérieux. Hein. Et, mais certains cas célèbres sont rentrés dans la langue française. Par exemple, le mot « algorithme », hein, c'est venu du nom d'un grand savant qu'on surnommait Al-Khorazimi, du nom de la province de Khorasme, d'où il était originaire.
Parfois, les gens sont appelés aussi par des surnoms. Là encore, il faut suivre.
Par exemple, dans le monde arabe, hein, par la péninsule arabique est très friande de ce que l'on appelle une kunya. Hein. Alors, une kunya, ce n'est ni un prénom, ni un lignage, hein, mais c'est une appellation que l'on dérive de l'activité favorite de quelqu'un. Hein. Ah. Donc, par exemple, si on aime beaucoup les chameaux, hein, donc l'un des mots pour chameau, c'est Bakr, eh bien, on se fait surnommer Abu Bakr, papa chameau, qui est un personnage célèbre dans l'histoire de l'islam. Ce système doit être très pertinent pour qualifier les autres en fonction de leur activité favorite. Mais malheureusement, j'ai un grand regret. Hein. Peut-être par pudeur, mes amis omanais ne m'ont jamais encore attribué de kunya. Hein. Il y a quelques jours, j'ai longuement discuté avec le papa d'une jeune autiste, un papa français, qui avait passé une bonne partie de sa vie en Afrique noire pour raisons professionnelles. Alors là-bas, on l'appelait papa calcul. Hein. Un jour, en Côte d'Ivoire, on l'a appelé ainsi et c'est resté. Hein. Je dois dire que ça marche. Je n'ai pas gardé souvenir du prénom entre guillemets français hein, de mon interlocuteur d'un soir, mais par contre papa calcul impossible d'oublier.
Et vous, on ne vous a jamais donné un surnom en voyage ? Ça m'étonnerait.
Oui, mais j'ai failli en avoir. À mon arrivée au Cameroun, les gens qui étaient venus m'accueillir et qui sont devenus des amis en un clin d'œil m'ont dévisagé et ils m'ont demandé « comment tu t'appelles ?» Ah, j'étais un peu gêné parce que je pensais qu'ils le savaient déjà, donc je bafouillais Joseph hein, et eux d'éclater de rire. Mais non, pas ça, parce qu'il y a sur ton passeport « on veut ton nom d'ambiance ah, ». Je suis resté bouche bée, hein, incapable de répondre. Et là, l'un d'eux, riant de mon désarroi, a répliqué, moi c'est Giscard. Là encore, inoubliable. En somme, je crois que nous autres occidentaux, nous avons le système d'appellation, si vous me passez l'expression, le plus chiant possible.
Oui, alors ce nom d'ambiance, je suis sûr qu'ils vous en ont attribué un pendant ce jour.
Non, mais papa chocolat, ça m'irait bien.
Merci beaucoup, Joseph. On vous retrouve dimanche prochain, sans faute.
Merci, à tout bientôt.
Merci de nous avoir accompagnés. On referme les carnets du monde. Si vous voulez témoigner d'une situation à l'étranger, je vous rappelle notre adresse, lescarnetsdumonde@europe1.fr. Et pour continuer à voyager, mais cette fois en littérature, je vous passe le témoin, Nicolas Caro. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Qui rencontre-t-on ? On lit quoi ? On va où ?
Alors je reçois l'auteur de BD Fab Caro, vous savez, Zai, mais qui publie aussi des romans, c'est pour ça que je le reçois. Et puis je partirai visiter la bibliothèque d'Yves Cantbord, le chef.
Oh, génial.
Il a évidemment une bibliothèque pleine de livres de cuisine, pas seulement.
A tout de suite pour La Voix et Livre, bonne émission. Quant à nous, avec Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets et Florence Zimalac qui m'a aidé à les préparer, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.